commencé à travailler sur le sujet, en fait, bon, j'étais toujours intéressé par le mouvement libertaire et le mouvement anarchiste, même si je ne m'étais jamais vraiment approché des militants. Je connaissais l'Athénée Libertaire dans les années 90 parce qu'il y avait beaucoup de concerts et moi je faisais partie de la scène musicale bordelaise. Mais d'un autre côté, je ne m'étais jamais vraiment penché sur, sur ce que c'était vraiment que le mouvement libertaire. Donc, quand j'ai fait ma maîtrise d'histoire, je me suis dit que c'était un bon moyen justement d'en savoir un peu plus. Et c'est pour ça que je m'y suis mis. Puis après, comme j'étais voilà, j'étais à Bordeaux 3, on nous encourage à faire des sujets locaux, et ce qui est très bien. Donc, du coup, j'ai travaillé sur le mouvement à Bordeaux, quoi. Les dates, parce qu'il y avait déjà un mémoire de maîtrise qui avait été réalisé, qui s'arrêtait en 1914. Et je pensais que la date de 68 était très importante, même si finalement, quand j'ai fait mon mémoire, je me suis aperçu, quoi. Comme j'avais très peu de sources sur cette période, je ne pouvais pas savoir si ça avait été vraiment si important que ça pour le mouvement libertaire à Bordeaux, en fait.
Oui, c'est ce que Jules Fauché souligne dans son mémoire de master. Tu as arrêté à 68, mais tu n'as pas pris le mouvement de 68. En tout cas, tu n'as pas étudié les événements de mai 68. Tu peux nous rappeler, puisqu'on voit bien, et on en discute, on voit bien que aujourd'hui, faire des recherches en histoire contemporaine sur le mouvement libertaire, il y a un problème de source, c'est-à-dire où trouver les sources pour développer ces recherches. Est-ce que tu peux nous rappeler à partir de quelles sources tu as construit ton mémoire?
C'est en fait, on peut diviser la période en deux, la période que j'ai étudiée, parce que justement les sources sont très différentes sur ces deux périodes. La première période qui va de 1914 jusqu'à 1939, j'ai eu accès aux sources policières, donc c'est-à-dire des, en tout cas c'était la surveillance policière des anarchistes à Bordeaux, et j'avais eu accès jusqu'en 1939. Parce qu'à l'époque, les archives de la Seconde Guerre mondiale, c'était l'époque du procès Papon. Donc en fait, elles n'étaient pas vraiment libres. Et puis il y avait, alors je ne vais pas dire de bêtises parce que c'est un peu loin tout ça, mais il y avait une histoire de 70 ans. Et donc du coup, j'avais pu avoir accès aux archives policières jusqu'en 1939. Et je me suis aperçu qu'il y avait, en gros, il y avait presque un rapport de police par semaine sur les anarchistes bordelais dans cette période, quoi, entre 1914 et 1939. Alors, c'est des rapports qu'il faut prendre avec des pincettes, parce qu'on ne sait jamais qui exactement l'a écrit. Donc, c'était des gens qui étaient infiltrés à l'intérieur du mouvement. Mais on ne peut pas savoir non plus si exactement ces personnes essayaient de dire ce qu'elles avaient vu exactement, ou si elles ne voulaient pas se faire mousser par rapport à leur supérieur, etc. Mais en tout cas, ça donnait une idée de l'état des groupes et des différents groupes, puisqu'il y avait déjà deux ou trois groupes. Et ça se divisait aussi souvent les groupes. C'est quelque chose qui m'a surpris dès le début, et que je ne savais pas quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, c'était l'importance des Espagnols dans le mouvement. Et bon, donc j'avais accès à ces sources-là pour cette période avant la Deuxième Guerre mondiale, et en plus aux journaux de l'époque. Et aux publications des militants bordelais, qui étaient à cette époque des militants qui avaient quand même une envergure nationale. C'était surtout les frères Lapeyre, Jean Barruet. Et ça, c'était la première période. La deuxième période, après 39, j'avais plus accès aux archives de police. J'avais accès à des journaux, donc entre 1939 et 1968, et aussi à des témoignages oraux.
On a vu avec le mois dernier, avec le mémoire qu'a fait Théo Sagaert justement sur l'entre-deux-guerres, le mouvement. Donc il a vraiment repris à la fois le travail que tu avais commencé, il l'a développé. Aujourd'hui, on est aussi avec Jules Fauché sur la question du milieu libertaire, et on voit bien que ça se divise en deux, c'est-à-dire que d'un côté, il y a des archives, il y a les archives militantes et les entretiens. Et toi, quand même, à l'époque, en 1998, donc tu as, ou 97-98, tu as pu rencontrer à cette époque des militants qui aujourd'hui sont morts. Comment se sont passés ces entretiens?
Alors, je pense que si je pouvais les refaire aujourd'hui, je les ferais beaucoup plus d'une manière beaucoup plus complète, parce que c'était les premiers entretiens que je faisais. Puis j'étais très intimidé parce que j'arrivais avec des militants comme Émile Cravé, qui avait 90 ans, qui avait fait partie de la colonne de fer, qui était un ancien de la guerre d'Espagne, de la résistance, etc. Où j'avais aussi rencontré, je ne me rappelle plus son nom, mais c'était un ancien aussi des brigades internationales qui vivait à Bacalan, d'origine espagnole. Et puis des gens aussi qui étaient aussi des militants aguerris comme Escoubé, Salamero, qui vivait encore jusqu'à l'année dernière, qui a interviewé Gilles Fauché. Voilà, j'étais très intimidé, mais en tout cas, c'est des gens qui m'ont quand même qui ont été très généreux et qui, et grâce à leur témoignage, alors c'est des témoignages après qu'il faut après essayer de recouper, mais j'en ai appris beaucoup sur le mouvement, sur des parcours individuels. Et puis, ça pouvait compléter énormément de trous que j'avais dans la chronologie. On pouvait répondre aussi à des questions idéologiques, parce que moi, je m'étais aperçu qu'il y avait quand même, il y avait toujours cette division entre Espagnols et Français, notamment au niveau de la CNT. Et du coup, je pouvais un peu travailler là-dessus. Surtout que même s'il y avait des journaux dans cette période d'après-guerre, il y en a beaucoup qui s'étaient perdus. Et puis, il y a aussi un problème. Il y avait un problème, c'était qu'il y avait quand même pas mal de groupes différents qui s'étaient divisés. Et après, des fois, c'était un peu compliqué de retrouver les archives, parce qu'en se divisant, les groupes amènent leurs archives, et puis après, des fois, elles se perdent, quoi.
Alors justement, ça, c'est une question qui est importante, c'est-à-dire qu'à l'époque, en 98, les archives de Jean-Jacques Réal n'étaient pas parties à Madrid. Est-ce que toi, tu avais pu aller au centre documentaire de Jean-Jacques Réal, qui était à Bègles?
Alors oui, j'étais allé chez lui, et j'ai eu accès à... Je sais que j'ai eu accès à des choses, je ne me rappelle plus exactement quoi. Ça devait être sûrement des journaux, comme le combat syndicaliste. Mais j'étais allé chez lui, j'avais eu accès. Mais selon mon souvenir, je n'avais pas eu énormément de... Je ne sais pas si ça avait été très utile pour mon mémoire. Mais après, il y avait effectivement la télé libertaire qui m'a ouvert ses portes. Il y avait aussi, je ne me rappelle plus comment s'appelait... Un imprimeur...
Gilles Duroux. Ouais, Gilles Duroux, voilà, qui avait aussi un centre.
Ouais, il avait, d'ailleurs, je me rappelle qu'il avait une collection du Monde Libertaire des années 50, qui était faramineuse, dans des centres d'archives. Mais bon, ça, c'était passionnant aussi. Hein. C'est aussi des choses que j'ai découvertes qui m'ont passionné. Il y avait aussi un groupe de la CNT, à cette époque-là, qui avait aussi des archives, notamment des archives de la CNT espagnole. Mais je ne sais pas ce que sont devenus. Je sais qu'ils étaient vers Mériadec.
Ludovic Bonleu, pour conclure, ça donnait quoi comme photographie, comme image, donc en 98, quand on rédige un mémoire, qu'on est relativement jeune, ça donnait quoi comme photographie d'ensemble, ce travail sur une période très longue?
Un mouvement très actif, qui n'avait pas toujours beaucoup de militants, mais il y en avait toujours un petit peu, qui est un petit peu bipolaire dans ce côté militant français et espagnol, qui était souvent un petit peu, surtout ça c'était plutôt dans l'entre-deux-guerres, mais moi j'avais l'impression que c'était un peu les Français individualistes et les Espagnols anarcho-syndicalistes un petit peu. Un mouvement qui a toujours été présent dans les grands moments de l'histoire à sa manière. Et puis des gens qui... un mouvement avec des divisions aussi, mais en même temps des gens qui étaient aussi très généreux, qui voulaient partager la mémoire en fait.
Je te remercie Ludovic Bonleu pour ces témoignages et je pense qu'il va faire plaisir à Jules Fauché et à Théo Sagaert qui sont présents au studio.
Eh bien, merci à vous et puis c'est super qu'il y ait qu'on récupère l'histoire encore et qu'on la refouille pour sortir de nouvelles choses, quoi.